Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Qui pour gouverner l'Allemagne? Décidément, de Paris à Berlin, l'heure est aux grandes manœuvres politiques. Olaf Scholz, dont la coalition tripartite a explosé en plein vol, joue les tacticiens. Lundi, le chancelier social-démocrate a sollicité la confiance du Bundestag dans le but de ne pas l'obtenir et de déclencher des élections législatives.
C'est la sixième fois dans l'histoire de l'Allemagne qu'un chancelier a recours à l'article 68 de la Constitution. Lors des élections anticipées, les citoyens pourront ainsi déterminer l'orientation politique de notre pays.
Le plan s'est déroulé comme prévu. Olaf Scholz a été censuré. De nouvelles élections auront lieu le 23 février. Sauf que rien ne dit que le chancelier sera réélu comme il l'espère. Car le favori des sondages, c'est lui, le conservateur Friedrich Merz, qui a dévoilé hier un programme résolument à droite.
Après trois ans de gouvernement et de coalition tripartite, cela ne peut plus continuer. Nous assistons à une fuite importante des capitaux en Allemagne. Notre pays perd en compétitivité.
Ébranlé par la crise énergétique, le modèle allemand est menacé de récession pour la deuxième année consécutive. Les plans sociaux se multiplient, même Volkswagen va fermer des usines.
La direction du constructeur automobile a pris de nombreuses mauvaises décisions au fil des années. Nos collègues de ThyssenKrupp, Bosch, ZF, Conti et de nombreuses autres grandes et petites entreprises s'inquiètent également pour leur emploi.
Toutes les certitudes semblent voler en éclats. Emploi, soutien à l'Ukraine ou remise en cause de la politique d'immigration par l'extrême droite et une partie de la gauche. Alors que se passe-t-il en Allemagne? Le modèle allemand est-il en train de s'effondrer? Comment surmonter ces crises économiques et politiques?
Et pour en discuter et en débattre, Michaela Wiegel, bonsoir. Vous êtes allemande et correspondante à Paris du Frankfurter Allgemeine Zeitung. Pardonnez-moi mon accent.
Zeitung, pardon.
Merci Jean Quatreflac. Selon vous, Michaela Wiegel, la crise en Allemagne est plus économique que politique. Contrairement à la France, plusieurs piliers de notre, là vous parlez de l'Allemagne, de notre réussite économique sont en crise. D'abord, la politique énergétique qui n'est pas durable, mais également l'accès au marché chinois qui s'est refermé pour l'Allemagne. À côté de vous donc, Jean Quatremer, dit Jean Quatreflac, correspondant européen pour Libération, le quotidien Libération. Selon vous, Jean, Olaf Scholz, c'est le pire chancelier que l'Allemagne ait eu depuis 1949. Le modèle productif allemand, par ailleurs, toujours selon vous, s'est effondré en 2020 et 2022. L'Allemagne continue de voir son salut dans des accords de libre-échange, comme le fameux Mercosur, mais pour de mauvaises raisons. Et à côté de vous, Marie Krpata, bonsoir madame, chercheuse au comité d'études des relations franco-allemandes à l'IFRI. Selon vous, outre l'économie, le thème de l'immigration va dominer les élections législatives. Deux partis sont anti-immigration, vous le rappelez, l'AFD, à l'extrême droite et, plus curieusement, le BSW pour la gauche radicale, les conservateurs de la CDU se droitisent par ailleurs eux aussi. Et on démarre, Benjamin, avec le chiffre du jour.
Oui, ça va faire plaisir à Jean Quatremer. Olaf Scholz et son parti, le SPD, sont crédités de 16 à 17% des intentions de vote pour les élections législatives, donc du 23 février prochain, ouais. Presque moitié moins que la CDU, les conservateurs, leurs alliés, donc dans la coalition sortante, mais aussi derrière le parti d'extrême droite, AFD, crédité de près de 20% des suffrages. Mais Michaela Wiegel, est-ce que c'est vraiment terminé pour Scholz ou est-ce qu'il peut faire une remontada?
J'allais vous dire, il faut se méfier des sondages parce que vous vous souvenez probablement, il y a trois ans aussi, on avait déjà un chancelier chrétien-démocrate et ça s'est effondré sur les derniers mètres. Mmh. Et là, il ne faut pas oublier que notre campagne électorale, enfin le plus chaud de la campagne va se dérouler après l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis.
Après le 20 janvier. Non.
Après aussi, éventuellement, s'il a dit partout qu'il allait tout de suite trouver une solution pour l'Ukraine. Et,
Trump n'a dit ça, hein, pas Scholz. Trump.
Oui. Mais ceci dit, ça peut influencer notre campagne électorale et ça peut surtout donner de l'essor au chancelier Scholz qui veut incarner le chancelier de la paix et qui se met en scène. Donc je me méfie. Au jour aujourd'hui, on peut penser qu'il y aura une alternance et que le mauvais bilan économique joue en défaveur, mais On n'est jamais sûr.
Mais c'est qui alors l'alternance, Jean Quatremer? Friedrich Merz, qui est-il cet homme qu'on découvre? On ne l'a jamais entendu parler de lui ici.
Eh bien, écoutez, en tous les cas, Merz apparaît effectivement comme une alternative très crédible et même souhaitable après l'arrivée, avec l'arrivée de Donald Trump. Pourquoi? Parce que notamment, ce n'est pas un pacifiste à la Olaf Scholz. Olaf Scholz, c'est le vieux
c'est
parti.
C'est un Munichois, Olaf Scholz, quasiment enfin,
c'est un Munichois, c'est-à-dire c'est la partie pacifiste du SPD. Il est complètement enfermé dans cette conception complètement dépassée de la politique internationale allemande. C'est lui qui refuse de fournir les fameux missiles Taurus à l'Ukraine, qui sont absolument essentiels, notamment pour taper le pont de Merz et donc d'isoler la péninsule, donc la Crimée, du continent, de la Russie.
Que Merz, lui, il est pour les livrer. Toujours dans le soutien.
Il est hyper dur là-dessus, il est pour le soutien. Il n'y a pas du tout les hésitations de choses. Alors, je ne dis pas que ça va être de le jour qui va succéder à la nuit, j'en suis pas là. Ouais. Mais néanmoins, moi j'espère qu'on en terminera avec Scholz, parce qu'en 4 ans, il n'a pas réussi.
Trois ans.
Ça paraît tellement long, Michaela. Et en 3 ans, vous vous rendez compte qu'il n'a rien fait pour l'Europe, il n'a jamais compris comment fonctionnait l'Europe, il n'a rien fait pour la relation franco-allemande. Vous vous rendez compte qu'il n'avait pas compris qu'il devait être là pour l'inauguration de Notre-Dame. Il faut dire que c'était une erreur gravissime. Il ne comprend rien à la France. C'est un hambourgeois, je connais bien Hambourg. C'est un hambourgeois, il est fermé sur lui-même, il est isolé du monde.
Il est habillé pour l'hiver,
Je n'aime pas ce bonhomme.
Bon, alors vous avez cité 2021, justement, c'est notre archive. On est en 2021, regardez, vous allez voir, le jour de la passation de pouvoir entre Angela Merkel et le fameux Olaf Scholz, le meilleur ami de Jean Quatremer, qui est alors à la tête d'une coalition tripartite.
Un bouquet de fleurs offert en remerciement à Angela Merkel, seule image symbole de la passation de pouvoir avec le nouveau chancelier, Olaf Scholz. Longtemps maire de Hambourg, il était depuis 4 ans le ministre des Finances d'Angela Merkel. Souvent sous-estimé par ses adversaires, décrit par le Spiegel comme l'incarnation de l'ennui en politique, il vient pourtant de réaliser le tour de force de former ce gouvernement, fruit d'une alliance inédite entre la gauche, les écologistes et les libéraux.
C'est une coalition de 3 partenaires égaux qui joignent leurs forces pour le bien du pays.
Marie Kupata, pourquoi elle a explosé cette coalition? Est-ce que c'est parce qu'ils étaient trop nombreux, 3 au lieu de 2 habituellement, ou est-ce que c'est parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur le fond, c'est-à-dire notamment sur l'orthodoxie budgétaire? Qu'est-ce qui a joué le plus?
Effectivement, un gouvernement à 3 partis, c'est compliqué. Plus on est nombreux, plus c'est compliqué de trouver un consensus. Alors, Olaf Scholz a essayé de faire la synthèse entre les différents intérêts au sein de cette coalition. Donc on a les sociaux-démocrates qui représentent les intérêts des employés, des ouvriers, de la base industrielle allemande, du Standort Deutschland. Puis il y a les Verts, évidemment, qui représentent la transition énergétique.
Il a fait ce compromis, il a essayé de le faire.
Sachant qu'évidemment, il y a beaucoup d'atomes crochus entre le SPD et les Verts, notamment sur les questions sociales. Et puis, en fait, après, il y a aussi le FDP, donc les libéraux, qui, eux, sont plus pour une orthodoxie budgétaire, pour un contrôle des finances publiques, pour la main invisible, un désengagement de l'État. Et donc, effectivement, c'est là que ça a coincé et c'est là que le frein à l'endettement entre en jeu, en fait.
C'est sur ce point-là que ça a grippé, malgré le sens du compromis allemand.
Je pense réellement la véritable décision qui a fait déjà éclater la coalition, c'était le jugement de la Cour de Karlsruhe. Ça va faire plaisir à Jean.
Racontez-nous, rappelez-nous.
Qui a jugé le budget inconstitutionnel. Et c'est ce qui peut arriver de pire à un gouvernement allemand. Et
C'était
il y a déjà en juillet 2023. D'accord. Et depuis, en réalité, il y avait la SPD qui voulait continuer à manipuler un peu le budget pour cacher ça. Et à un moment donné, le ministre des Finances, qui par ailleurs toute une personnalité, mais sur ce point, il a dit « on ne peut pas continuer comme ça ». Et c'est ça qui était vraiment au cœur de la décision finale.
En fait, il faut bien comprendre, quand nous, les Français, on a besoin de dépenser moins, les Allemands, ils ont besoin de dépenser plus. Tout s'effondre en Allemagne, ils n'ont pas d'armée, ils doivent investir massivement. Et ces idiots ont mis en place, ont mis dans la constitution allemande, c'est un truc de dément, un frein à l'endettement au moment de la crise de la zone euro. Mmh. Pour montrer l'exemple, pour dire nous, on n'est pas comme les Grecs, on ne sera jamais comme les Grecs. Nous sommes supérieurs à tous ces peuples du Sud, le Club Med. Et donc, ce frein à l'endettement, il fallait le faire sauter. Or, les libéraux ne voulaient pas en entendre parler. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a trafiqué le budget, c'est-à-dire on a mis hors budget des engagements budgétaires, ce qu'on fait très bien en France, on est les champions du monde pour ça. Et là, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a dit. Non, c'est où vous modifiez la Constitution, mais vous ne trafiquez pas le budget comme ça. Donc c'est assez amusant parce qu'en France, nous, on tombe, les gouvernements tombent les uns après les autres parce qu'ils doivent dépenser moins, et les Allemands tombent parce que le gouvernement tombe parce qu'il doit dépenser plus. Mmh. Et ils le savent qu'ils doivent dépenser plus.
Mmh. Bon, et alors du coup, là, il est question d'une récession pour la deuxième année consécutive et d'une crise dans le secteur symbolique, le secteur roi de l'économie allemande, la voiture, Volkswagen en l'occurrence.
Oui, c'est un moment vraiment rarissime dans le pays. 100 000 salariés des usines Volkswagen ont fait grève pendant 2 heures début décembre pour protester contre les menaces de plans sociaux. Car fin octobre, le géant automobile avait annoncé pour la première fois en 87 ans la fermeture possible de 3 usines. Il y en a 10 au total dans le pays. Aussi la suppression de 10 000 emplois et une baisse de 10% de tous les salaires. Et tout cela pour économiser 4 milliards d'euros, car Volkswagen ne va pas très bien et a du mal à rester la tête hors de l'eau. Son modèle économique, c'est l'exportation et son principal marché, c'est la Chine, sauf que les Allemands n'ont jamais vraiment réussi à prendre le virage de l'électrique. Des concurrents chinois comme BYD, par exemple, ont émergé beaucoup plus compétitifs, avec des outils de production beaucoup plus modernes. Résultat, les exportations ont chuté, mais c'est le cas aussi au niveau européen. Les ventes de véhicules neufs n'ont jamais retrouvé le niveau d'avant Covid. Le directeur financier du groupe déclare même que Volkswagen vend aujourd'hui 500 000 voitures de moins qu'avant le Covid. On se souvient, et vous vous souvenez certainement de ce slogan d'Opel, la Deutsch Qualität, qui garantissait d'acheter une... Merci. Qui garantissait d'acheter une voiture à très haute valeur ajoutée. Michaela Wiegel, est-ce que ce slogan, il est toujours d'actualité aujourd'hui ou alors il a perdu un petit peu de son aura?
Je pense que vous décrivez très bien ce qui guette le reste de l'Europe. En vérité, là, malheureusement, on peut dire que l'Allemagne est un peu l'avant-garde. Alors, effectivement, il y a eu des erreurs dans la stratégie de Volkswagen. On a vu trop tard le tournant de la voiture électrique. Mmh. On a laissé aussi, avec une politique européenne... jouer le libre jeu du marché concernant la voiture électrique, alors qu'on sait aujourd'hui que la Chine a massivement subventionné son propre appareil industriel. Et donc, je pense que c'est plus une question de qualité, parce que c'était ça votre question. C'est une question de stratégie industrielle et une question aussi, est-ce qu'avec la sortie des moteurs thermiques, on ne se tire pas une balle dans le pied parce qu'on perd des pans entiers de notre industrie automobile.
Marie Kropata, est-ce que ce n'est pas plus global quand même que les choix qui ont été faits? Est-ce que c'est les choix énergétiques perdants? C'est-à-dire que l'abolition du nucléaire en Allemagne, qui pâtisse aujourd'hui à l'industrie, est-ce que c'est un modèle productif qu'on a tant vanté, qui est aujourd'hui obsolète? Est-ce que c'est une combinaison de tout ça qui touche Volkswagen, mais l'ensemble du système productif allemand?
Je pense qu'à la décharge d'Olaf Scholz, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même une guerre en Ukraine, une guerre en Europe depuis 2022. Et donc, cela a complètement, quelque part bouleversé l'Allemagne. Et donc, ce modèle allemand, alors je sais que Michaela Wiegel n'est pas forcément d'accord avec ce mot de modèle, mais effectivement.
Et il était vu comme ça, hein,
cette dépendance en matière de sécurité et de défense par rapport aux États-Unis, en fait, qui s'est accrue depuis 2022, puisque l'Allemagne achète plus d'armes encore aux États-Unis, mais également sur le plan énergétique, eh bien, aujourd'hui, on prend ses distances par rapport à la Russie. Donc, on est obligé aujourd'hui de se tourner vers d'autres sources d'approvisionnement qui sont plus onéreuses.
Et ça coûte très cher.
Et ça coûte cher. Et donc, là aussi, on va se tourner vers les États-Unis, notamment pour le gaz naturel liquéfié. Les industries énergivores sont tout particulièrement impactées par la hausse des coûts de l'énergie. Donc, la question de l'attractivité du Standort Deutschland, donc de cette base industrielle, va se poser. Donc, vous avez en parallèle d'autres pays, notamment les États-Unis, à travers le Inflation Reduction Act, qui propose des subventions, des crédits d'impôt pour les entreprises qui viennent en fait s'installer aux États-Unis. Et donc, les entreprises qui aujourd'hui sont établies en Europe peuvent être tentées par une délocalisation de leurs activités. Donc aujourd'hui, il y a une crainte de désindustrialisation également en Allemagne.
Et Jean Quatremer, pas Jean Mercosur, justement, l'Allemagne pense que son salut réside dans le libre-échange. Pardonnez-moi cela.
C'était magnifique.
Hop. Hein, notamment le Mercosur, c'est ça?
Absolument.
Et alors, c'est une erreur. Mais c'est pourquoi?
Le problème fondamental de l'Allemagne, c'est qu'elle n'arrive pas à changer de modèle, dans sa tête, de logiciel. C'est son logiciel, ce n'est pas le modèle. C'est un logiciel de fonctionnement qui a été mis en place par Schröder à la fin du XXe siècle. C'est-à-dire une triple dépendance, dépendance aux États-Unis pour la défense, dépendance à la Russie pour l'énergie bon marché, dépendance à la Chine pour fabriquer pour les exportations, si vous voulez, les investissements. Voilà. Or, ces trois dépendances-là se sont effondrées en l'espace de 2 ans. C'est énorme, c'est sans précédent. Et nous, les Français, depuis des années, on leur dit, mais faites pas ça, vous faites une erreur, c'est une dépendance, un jour, vous la paierez, cette dépendance. Donc, Trump, terminé, maintenant il faut s'investir nous-mêmes, la Russie, l'Ukraine, donc fin de l'énergie bon marché, la Chine, Xi Jinping, ça se referme sur soi-même. Et donc il faut changer de modèle. Oui, mais justement, j'y viens. Donc là, il faut passer à une logique beaucoup plus agressive, c'est-à-dire de défense commerciale. Donc il faut se dire, le libre-échange, finalement, il a montré ses limites. On a voulu imposer des taxes sur les voitures électriques chinoises qui sont massivement subventionnées. Les Américains, eux, ils n'ont pas scié, ils ont mis 100% de taxes. Nous, on en est à 20, entre 20 et 25% selon les modèles, etc. Et parce que les Allemands se sont battus comme des chiens en disant, mais non, le libre-échange va nous sauver. Or, ça ne la sauvera pas. Le Mercosur, ils veulent vendre leurs voitures là-bas. Mais il faut voir un peu...
Là-bas, c'est les pays d'Amérique du Sud.
Oui, ils veulent vendre leurs voitures à moteur thermique. Ils se disent, on va avoir un nouveau marché là-bas. Oui. Mais on ne peut pas...
Ils sont en train de prendre conscience de tout ça, d'après ce que vous nous dites, tout de même.
Ils ont conscience.
Argument que tu n'as pas mentionné, c'est quand même, et que je trouve il est assez valable, le Mercosur nous permet, nous, Européens, de vendre, alors que sinon, c'est la Chine qui va vendre en Amérique latine.
Alors, l'argument, je l'entends, et il est tout à fait audible, mais sur la voiture, c'est là où je ne l'entends pas, parce qu'on ne peut pas à la fois tenir des discours écologistes en interne et dire, oui, il faut changer, la planète va mourir, etc. Et Dieu sait si les Allemands donnent des leçons à la planète entière sur l'écologie, et par ailleurs dire, on va vendre nos voitures à des pays qui sont en voie de développement et qui vont continuer à polluer le reste de la planète. Bon, alors, c'est juste indéfendable.
Pour les minerais critiques et les terres rares que les États du Mercosur sont intéressants, une alternative
à Mercosur contre lequel se mobilisent les agriculteurs.
On va sortir un peu du champ
économique. On va sortir du Mercosur.
Oui, parce que l'Allemagne est secouée aussi politiquement par les extrêmes, notamment sur l'immigration, et pas seulement par l'extrême droite. Écoutez la dirigeante du parti de gauche radicale, BSW.
Also viele Menschen wünschen sich deshalb weniger Migration, weil sie eben in der Form stattfindet, wie sie stattfindet, nämlich irregulär, vielfach eben auch in die Sozialsysteme und nicht in den Arbeitsmarkt. Und deswegen, wir können, und das ist für unser Land einfach nicht verkraftbar, jedes Jahr 200.000, 300.000 und wirklich 500.000 Menschen aufzunehmen.
Marie Krepata, est-ce que l'immigration qui va être le point principal, le thème central de la prochaine législative. Certains disent ça. Est-ce que c'est à cela qu'il faut s'attendre ?
En tout cas, voilà, on a l'AfD, donc le parti d'extrême droite, et également le Bündnisse Wagenknecht, donc le parti d'extrême gauche, qui ont obtenu des scores. La représentante, qui ont obtenu des scores très importants dans les élections régionales à l'est de l'Allemagne, Thuringe, Saxe et Brandebourg. Et donc, effectivement, comme ça a été rappelé, l'AfD arrive en deuxième position dans les sondages. Donc, effectivement, on subit cette pression, cette rhétorique xénophobe de la part de ces partis-là. Et puis, il y a une droitisation également du CDU. Quand on regarde la crise syrienne, par exemple, des gens comme Jens Spahn du CDU, qui était un ancien ministre de la Santé de Angela Merkel, évoquait la possibilité de renvoyer des Syriens qui sont aujourd'hui en Allemagne vers leur pays d'origine.
Les Syriens qui avaient été accueillis au nom de Wirtschaftsfidas par Angela Merkel en 2015. Sur ce parti BSW, c'est un parti incroyable, parce que pour nous, vu de France, c'est comme si la France insoumise avait ce discours violemment xénophobe, raciste et anti-immigration, non ?
C'est assez intéressant parce que...
Ou le PCF, ou le Parti communiste français.
Oui, mais le PCF, il faut se rappeler que c'est le Parti communiste français qui...
Oui, mais parlez-nous du BSW plutôt.
Mais c'est la même chose. Ah bon. Ils se sont lancés et à la même époque, au moment où le chômage montait. Or, on a un problème en Allemagne aussi de chômage qui commence à apparaître, puisqu'on ferme les usines, etc. Et le PCF avait dit, on va remplacer... C'était c'est l'argument du Front National. 5 millions de chômeurs égale 5 millions de travailleurs immigrés. C'est dans les années 70 que ça a commencé. Il ne faut pas l'oublier. Et il y a autre chose en Allemagne, parce qu'il y a l'affaire, effectivement, de l'immigration, l'emploi, etc. Mais il y a aussi une autre question qui est celle de l'islam, de l'insécurité, du terrorisme, etc. C'est-à-dire qu'il faut voir que les Allemands avaient un modèle très d'intégration communautaire qui s'est aussi effondré depuis le
Et Michael Avigal, c'est vrai que même Scholz s'est emparé de ce sujet. Il a imposé des contrôles aux frontières récemment. Ça a surpris ici même. Une sorte de pas de naïveté, il appelait des pas de naïveté aussi, d'une autre côté à nous, sociaux-démocrates.
On peut dire que les deux parties, et notamment Sahra Wagner, qu'on a vu, elle est d'origine iranienne elle-même, donc c'est la femme d'Oscar Lafontaine, notre petit prince de la Sarre. Et donc c'est incroyable quand même ce mouvement où la gauche extrême a rejoint l'autre extrême. Ouais. Et donc je crois que effectivement, on a sous-estimé à quel point l'Allemagne est aussi travaillée par la question de l'immigration en termes d'intégration. Parce qu'on a toujours pensé que grâce au travail, on allait avoir une intégration culturelle, mais on constate aujourd'hui la majorité travaille, mais l'intégration culturelle se fait attendre.
Et à propos de ces deux partis, AfD extrême droite et gauche radicale BSW, ils sont tous les deux pro-russes ? Marie Krpata, ce qui est inquiétant par rapport à une position de l'Allemagne traditionnellement pour l'Europe, l'OTAN, etc.
Et là, ils veulent en tout cas renouer effectivement avec la Russie sur un plan diplomatique, sur un plan politique, sur la coopération énergétique et économique. Donc ils ne comprennent pas tellement l'utilité des sanctions de l'Occident contre la Russie. C'est d'ailleurs aussi pour ça que Olaf Scholz est sous pression et qu'il se positionne certainement comme chancelier de la paix, comme Friedenskanzler, et qu'il y a quelques semaines, il a eu un appel téléphonique avec Vladimir Poutine, ce qui évidemment a causé beaucoup de critiques en Europe centrale et orientale.
Mais ce qui est quand même incroyable, c'est qu'au final, tout de même, ces partis-là vont se retrouver. C'est-à-dire que le SPD va certainement diriger avec la CDU au final et vont devoir s'entendre sur cette question de l'immigration.
Oui, ils vont s'entendre parce qu'ils sont tous d'accord sur le fait qu'il y a un problème d'intégration. Même les Verts ont tenu un discours qui, en France, aurait été qualifié d'extrême droite. Lorsque Robert Habeck a fait une déclaration disant « Vous êtes chez nous, vous respectez nos coutumes et nos lois », qui était le vice-chancelier allemand, écologiste, qui en décembre dernier dit « Vous êtes chez nous, vous respectez nos lois », je veux dire que c'est un discours qui est absolument incroyable, même pour les Français.
On peut peut-être rappeler que c'était par rapport au 7 octobre.
Par rapport au 7 octobre, oui, c'est ça que je veux dire.
Donc il a eu un message très clair.
Sur ce point, c'est intéressant, Friedrich Merz, il veut qu'il y aura plus de régularisation sans sans que les gens s'obligent à ne pas être antisémite. Voilà, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une déclaration anti-antisémitisme, ce qui est quand même assez... ça va très loin.
Vous voulez rajouter quelque chose sur la position de l'Allemagne par rapport à la Russie et l'OTAN et l'Europe ?
Il ne faut pas se tromper. L'Allemagne, elle a toujours été pro-russe. Ontologiquement, l'Allemagne est pro-russe. Elle a toujours eu une politique russe, toujours été tournée vers la Russie. Et donc, le souci des Allemands, aujourd'hui, c'est de faire la paix avec la Russie à n'importe quel prix pour renouer des relations classiques avec la Russie. Je pense que le problème en Europe... qu'on a avec la Russie, c'est un problème allemand. Et il faut sans arrêt les retenir, et Scholz en est l'incarnation, il faut les retenir, surtout qu'on ne cède pas face à la Russie. Et je peux vous assurer que si Scholz est encore au pouvoir l'année prochaine, eh ben, il va suivre Trump pour avoir la paix en 24 heures et pouvoir refaire des contrats gaziers avec la Russie. –
Je suis complètement d'accord avec vous.
– Oui, la Westbindung, le lien avec l'Occident, le lien avec les États-Unis sont quand même fondamentaux en fait, pour l'Allemagne.
– Et pendant toute la guerre froide, c'est un phénomène plutôt nouveau, c'est-à-dire on a vraiment cru, après la chute du mur et après cette histoire heureuse, qu'on pouvait effectivement lier des liens amicaux avec la Russie.
On en reparlera au moment des législatives, le 23 février, ou plutôt le 24. Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir exploré. On les laisse ensemble. Notre question du jour.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.